Et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au CEDIAS Musée Social à Paris pour cet échange entre les lecteurs et lectrices d'Alternatives économiques et Jean-Marc Jancovici qui nous fait le plaisir de sa présence. Nous retransmettons en direct cette séquence sur la chaîne YouTube de l'association. Sachez qu'une captation est en cours pour les retardataires, les absents ou celles et ceux qui auraient particulièrement goûté ce moment. Merci à vous toutes et tous, public présent ou à distance. Merci à la rédaction d'Alter Echo d'être avec nous, et notamment Antoine de Ravignan. Je vous présente les excuses de Timothée Duverger, président de l'association des lecteurs d'Alter Echo, retenu pour une obligation professionnelle dans sa tendre Gironde. Il nous a donc confié le soin, avec Camille Dorival, Antoine Trobois et Jean-Louis Vira, au nom des membres de l'association, de vous interroger Jean-Marc Jancovici. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses et merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être est-il désobligeant de résumer 61 ans de vie en 3 minutes, mais l'exercice l'impose. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, diplômé de l'École Polytechnique et de Télécom Paris. Vous êtes le cofondateur avec Alain Grandjean de Carbon 4, cabinet de conseil en stratégie bas carbone. On vous connaît aussi comme fondateur et président du Shift Project, think tank occupé à la préparation d'une économie moindre émettrice de carbone. Vous donnez aussi des cours, des interviews, des conférences particulièrement suivies et relayées. Vous êtes aussi un auteur à succès, à l'image du Monde sans fin, qui à côté du Petit Prince ou des Misérables orne désormais de nombreuses bibliothèques françaises. Vous réussissez la prouesse de convaincre un large éventail politique, de l'extrême gauche à la droite, en passant par les écologistes et les patrons du CAC 40. On loue votre sens de la pédagogie, de la formule et des métaphores, ainsi que votre souci de la démonstration. D'aucuns vous reprochent d'être avant tout un soutien invétéré de la filière nucléaire, dont vous défendez régulièrement la pertinence dans un monde toujours plus demandeur d'énergie. La critique vise également votre discours qui serait alarmiste ou anxiogène et dont les effets seraient inverses à ceux recherchés. Parmi d'autres griefs, on pointe la corrélation rapide que vous établissez entre repli de croissance du PIB et fin prochaine des énergies fossiles, ou encore votre minimisation des risques liés à la filière nucléaire. Mais on vous reconnaît d'avoir repositionné le sujet de l'énergie et de la sobriété au cœur des débats politiques, voire peut-être des consciences citoyennes. Vous prenez une décarbonation plutôt voulue que subie, qui selon vous nous guetterait si nous ne changions pas de modèle et d'habitude de consommation. Votre pensée dépasse donc la seule question énergétique, et vos avis sont entendus sur le climat, la croissance, la démocratie, les choix de société, la sobriété, sujets sur lesquels nous aurons le plaisir de revenir tout à l'heure en compagnie de 3 autres membres de l'Association des lecteurs d'alternatives économiques. Nous commencerons avec Jean-Louis Vira, avec qui vous converserez sur la sobriété. Puis Antoine Trobois, à propos du mix énergétique, des ENR et du nucléaire. Et nous finirons avec Camille Dorival, qui vous interrogera sur la démocratie des choix techniques. Quelques éléments de cadrage en préambule de ces discussions dont nous nous réjouissons toutes et tous. Merci au JNE, qui nous appuie aujourd'hui pour la captation. Cette soirée est un échange entre les lecteurs d'Alter Echo et Jean-Marc Jancovici, dont nous espérons profiter des éclairages. Nous plaçons donc cet échange sous le signe de l'ouverture, de la neutralité, sans polémique et sans parti pris. Nous avons réservé un temps de questions posées par les personnes présentes dans la salle qui, bien entendu, je n'en doute pas, s'attacheront à les faire très courtes. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre de questions en ligne. J'assume aussi le rôle de gardien du temps qui me donnera le pouvoir, cher Jean-Marc, de vous inviter peut-être à écourter certaines réponses ou à vous relancer. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je donne la parole pour la première séquence de ce face-à-face à Jean-Louis Vira qui aura la charge de poser quelques questions à Jean-Marc Jancovici sur la question de la sobriété. Je vous remercie.
Le micro fonctionne, oui, très bien. Bonsoir, Monsieur Jancovici, merci d'être avec nous. Effectivement, nous sommes très très curieux de toutes les réponses que vous allez pouvoir nous faire, en commençant par la sobriété. Effectivement, on s'aperçoit que les constats des scientifiques sont sans appel, donc je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas à discuter. Et quand on parle de sobriété, ça pose certainement une question de choix de société, quelle façon de vivre nous envisageons d'avoir entre, grosso modo, le consumérisme qui a cours actuellement et des formes de société inventées beaucoup plus conviviales, simples et faites d'entraide. Alors, trois questions dans ce cadre-là. La première, c'est quels sont, selon vous, les scénarios, les études prospectives les plus dignes de confiance, en quelque sorte, les scénarios de référence que nous devons, nous, citoyens de base, avoir pour réfléchir et prendre des décisions.
Alors avant de répondre à la question, je vais peut-être commencer par donner ma définition du mot sobriété. Pour moi, la sobriété, elle n'a pas besoin d'adjectifs derrière, donc je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse. Elle a une définition qui est assez simple, c'est l'abandon volontaire d'un service permettant d'économiser derrière, et j'insiste sur volontaire, permettant d'économiser derrière l'énergie et les matières qui ont permis de fournir le bien ou le service. Je la distingue de l'efficacité, qui ne consiste pas à abandonner quoi que ce soit, mais qui est une amélioration technique du bien ou du service. Et je la distingue également de la pauvreté, qui en termes physiques ressemble à la sobriété, sauf que c'est subi et pas voulu. Donc en fait, il y a trois manières pour moi d'économiser de l'énergie ou d'économiser des ressources. L'efficacité, qui repose essentiellement sur la filière productive. Donc en gros, on veut toujours la même voiture, hébergeant toujours la grand-mère et le canari quand on part en vacances, allant toujours à la même vitesse, offrant toujours l'autoradio, mais il faut que les ingénieurs se débrouillent pour que ça consomme moins d'énergie ou pas la même, ou etc. La deuxième, ça c'est l'efficacité. La sobriété, c'est je ne prends pas la voiture pour partir en vacances et je pars en vacances en vélo, en train, je pars pas en vacances. Enfin voilà, dans le but délibérément d'éviter la consommation. Et la pauvreté, c'est je pars pas en vacances parce que j'ai pas les moyens, mais j'aurais bien aimé. Donc j'insiste sur le fait que la sobriété est nécessairement volontaire et que dès qu'on est dans la sobriété subie, ça s'appelle de la pauvreté. Le distinguo est important pour moi. Ensuite, pour répondre à la question sur les scénarios. Alors, un scénario, il y a un gros malentendu sur les scénarios. Un scénario n'est pas une prévision. Un scénario, c'est une boîte à casser pour aider à réfléchir à l'avenir. Ça n'est pas une prévision. D'accord ? Quand Météo France vous dit quel est le temps qu'il va faire demain, ce n'est pas un scénario météorologique, c'est une prévision. D'accord ? Il vous dit ça va se passer comme ça. Quand un astronome vous dit où sera la Terre autour de l'orbite autour du Soleil dans 3 ans, 2 mois, 3 semaines, 2 heures et 5 secondes, c'est une prévision. D'accord ? On applique les lois de la mécanique. Un scénario, ce n'est pas une prévision. Donc à chaque fois que quelqu'un dit parce que le scénario dit que c'est possible, non, un scénario ne dit pas que c'est possible. Un scénario, j'insiste, c'est une boîte à casser qui permet d'explorer l'avenir et de regarder, c'est du ce que les Anglais appellent du what if, d'accord ? C'est si nous avons ça, alors nous avons ça derrière. Un scénario, c'est aussi vraisemblable que les hypothèses qu'on met en entrée et aussi vraisemblable que les lois d'évolution qu'on utilise à l'intérieur du scénario, ni plus ni moins. Alors en ce qui concerne les scénarios qu'on a aujourd'hui sur l'avenir, ils partagent tous pour moi un certain nombre de faiblesses. Je dis bien absolument tous. Et il y en a une qui va beaucoup vous intéresser, puisque nous sommes ici au sein d'une assistance qui normalement est intéressée par l'économie. C'est qu'ils présupposent tous que nous conservons dans un monde qui va avoir de moins en moins d'énergie, la productivité industrielle que nous avons acquise dans un monde qui a énormément d'énergie. Alors, je vais prendre un exemple, on en parlera tout à l'heure peut-être sur les ENR, mais quand on dit aujourd'hui le coût d'une ENR baisse, en fait la démonstration qu'on a faite, c'est qu'on a réussi à le faire baisser dans un monde qui continue à être dopé aux combustibles fossiles. Ça ne présuppose pas que cette baisse de coût reste acquise dans un monde où les engins de mine n'ont plus de pétrole, il n'y a plus de porte-conteneurs pour transbahuter les pièces d'un continent à l'autre, il n'y a plus de camions en même quantité pour transbahuter les pièces d'une usine à une autre, il n'y a plus de pétrole pour mettre dans les grues qui érigent les éoliennes, etc. D'accord ? On ne sait pas ce que donne le prix dans ce genre de monde-là. Donc la partie économique des scénarios, pour moi, elle est faible dans tous les scénarios que je connais, parce que dans tous les scénarios que je connais, il y a une incohérence entre le paysage global dans lequel on baisse la quantité d'énergie qu'on utilise et la conséquence logique qu'il faudrait en tirer, qui est que moins d'énergie, c'est moins de machines au travail, et moins de machines au travail, c'est une productivité industrielle qui baisse. Vous avez plein de trucs qu'on ne prévoit pas dans les scénarios. Du reste, ces derniers temps, vous avez bien vu, par exemple, dans le budget carbone qui reste à l'humanité pour ne pas dépasser 1,5 degré, il vient d'être divisé par deux. Donc jusqu'à maintenant, on raisonnait avec un scénario dans lequel il était de 600 milliards de tonnes de CO2. On avait encore le droit d'émettre 600 milliards de tonnes de CO2 avant d'atteindre un bien. Pof, c'est passé à 300. Bon. Donc j'insiste sur ce qui est une très mauvaise nouvelle, mais donc j'insiste sur le fait que un scénario n'est encore une fois pas plus vraisemblable et pas moins, ni plus ni moins, que les hypothèses qu'on a mises en entrée et les lois d'évolution. Ce qui fait que pour réfuter un scénario, vous n'avez malheureusement pas d'autre solution que, et du reste on en parlera tout à l'heure dans le sujet de la démocratie, soit de le lire vous-même et d'aller vous palucher vous-même la vérification de toutes les hypothèses une par une et toutes les lois d'évolution une par une, d'accord ? Ça c'est l'option A. L'option B, faire confiance à quelqu'un qui va faire ça pour vous et en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance parce que vous avez déjà vérifié dans un autre cas de figure qu'il n'y a pas de différence entre un truc que vous êtes allé regarder vous-même, dans le même sujet, dans le même domaine évidemment, et un truc qui l'a dit, ce tiers de confiance. Mais vous êtes coincé, vous n'avez pas d'autre moyen. Donc c'est le tiers de confiance ou c'est la lecture en direct. Voilà. Et donc ce que j'en pense, je le redis, c'est que j'insiste sur le fait que ça n'est que des boîtes à casser qui sont aujourd'hui encore très incomplètes sur les bouclages globaux. Hein, très incomplètes.
Et bien alors, on a quand même besoin de scénarios pour réfléchir, parce que hein, on n'est pas, on n'a pas la science infuse au sens large du terme. Et donc, on a souvent l'habitude, à tort ou à raison, d'ailleurs vous allez peut-être nous le dire, de nous référer aux quatre scénarios de l'ADEME, avec en gros deux qui penchent du côté d'une certaine forme de sobriété, en tenant compte d'ailleurs de ce que vous avez dit, ou à l'inverse, des scénarios beaucoup plus technicistes. Quelle serait votre réaction, votre avis, votre préférence par rapport à, allez, en gros, ces deux catégories de scénarios?
Alors, je vais plutôt... C'est beaucoup plus facile de donner un avis sur ce à quoi on ne croit pas que ce à quoi on croit. Donc, je vais commencer par dire ce à quoi je ne crois pas. Dans les scénarios de l'ADEME, et on en parlera peut-être tout à l'heure, tous ceux qui sont rapidement... Enfin, qui sont très sobres, reste quand même des scénarios de croissance économique. Alors, tant que le PIB mesurera la même chose, j'insiste, parce qu'il y a des tas de moyens de lui faire mesurer autre chose. Donc, on peut décider, par exemple, qu'on supprime la notion d'inflation. À ce moment, on peut avoir un PIB éternellement croissant, ça pose aucun problème, même avec une consommation matérielle décroissante. Mais tant que on a quelque chose qui mesure toujours la même chose, hein, moi, je ne crois pas, dans un monde avec de moins en moins d'énergie et de moins en moins de machines, à une productivité du travail qui continue d'augmenter. La productivité du travail industriel, ça n'a été rien d'autre que de mettre des machines en plus des hommes. Je veux dire, les ouvriers, aujourd'hui, ils n'ont pas 43 paires de bras et 26 paires de jambes, alors qu'ils n'en avaient qu'une chacun, paire de bras et paire de jambes, il y a un siècle. Donc, s'ils sont devenus considérablement plus productifs, c'est juste que les machines bossent à leur place. Si un ouvrier métallurgiste aujourd'hui est des milliers de fois plus productif pour produire de l'acier dans un haut fourneau que ça n'était le cas avec les loupes en fonte il y a quelques siècles, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il leur a poussé des bras et des jambes et qu'ils ont des tels poumons qui font les soufflets de forge à eux tout seuls. C'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est le haut fourneau et le laminoir qui produisent de l'acier, ce n'est pas l'ouvrier. L'ouvrier, il est là pour donner des ordres à la machine. Donc dans un monde avec de moins en moins d'énergie, l'idée qu'on va conserver une productivité du travail importante est un problème. Donc ça, il y a ça dans les quatre scénarios de l'ADEME. C'est quand même une hypothèse qui est un peu gênante parce qu'il y a un petit coup de baguette magique là-dedans qui permet derrière de rendre possible des tas de trucs qui, si on enlève cette hypothèse, cessent d'être possibles. Hein. Et je n'ai pas corrigé les scénarios de cette hypothèse-là. D'accord, j'ai pas fait ce boulot. Alors après, ce à quoi je ne crois pas, c'est au fait que sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre, on va avoir de plus en plus de flux de matière. De toute façon, j'y crois pas. Et de plus en plus de flux d'énergie, je suis même capable de démontrer l'inverse. Il y a un petit théorème de maths qui permet de le démontrer. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut rendre désirable une baisse de la consommation matérielle que, de toute façon, on va devoir gérer. Et cette baisse de la consommation matérielle, il faut, mais ça dépend des secteurs, faire une combinaison entre efficacité et sobriété. En gros, on ramasse tout ce que l'efficacité nous donne et on boucle avec de la sobriété. En gros, c'est comme ça qu'il faut arriver à faire les choses. Mais, toujours dans les trucs intéressants à noter, il ne vous aura pas échappé qu'en général, quand l'économie va, entre guillemets, pas bien, c'est-à-dire qu'on est en récession, etc., la rotation du capital ralentit. Quand la rotation du capital ralentit, par exemple, les voitures se renouvellent moins vite, les ordinateurs se renouvellent moins vite, etc., du coup, ça limite la pénétration du progrès technique. Parce que pour que le progrès technique pénètre, il faut renouveler les parcs. D'accord ? Pour que les voitures deviennent plus efficaces, il faut les remplacer. Donc, il faut renouveler les parcs. Pour que les ordinateurs et les mixeurs à soupe deviennent plus efficaces, les tourniquettes à faire la vinaigrette, comme disait Vian, eh bien, il faut les remplacer. Donc, il y a là aussi quelque chose que souvent, dans les scénarios qui sont très volontaristes sur l'efficacité énergétique, en fait, il ne boucle pas avec l'énergie nécessaire au sein de l'industrie pour fabriquer à toute vapeur, c'est le cas de le dire, tous les objets qui vont devoir être nécessaires pour remplacer des objets existants. Enfin voilà, il y a des choses de cette nature qui ne sont malheureusement pas dans les approches. Donc moi je crois qu'on va devoir faire avec moins. Je vais vous donner un autre exemple de truc qui n'est pas pris en compte aujourd'hui. Quand en 1800, la totalité de l'économie mondiale, donc française en particulier, tournait avec 9 éléments du tableau de Mendeleïev. Le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, le carbone, l'oxygène, et j'en oublie 3, je ne sais plus ce que c'était. Bon, bref. À l'heure à laquelle je vous parle, les 92 éléments du tableau de Mendeleïev ont des applications industrielles. Les 92. Ce qui veut dire que rien que votre chemise ou mon polo sont indirectement dépendants des 92, parce que le type qui m'a vendu ce polo, il a de l'informatique chez lui. Dans l'informatique, s'il n'a plus d'ordinateur chez lui, qui retourne à papier-crayon pour gérer, il ne vend pas autant de polos, etc. Donc en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a créé une économie mondialisée, et une bonne partie des progrès techniques sur lesquels on compte à l'avenir postulent que cette mondialisation perdure, parce que cette mondialisation est nécessaire pour extraire les 92 éléments du tableau de Mendeleïev là où ils se trouvent. En France, par exemple, on n'a pas de mine de cuivre. En France, on n'a plus de mine de fer. On pourrait en rouvrir. Ce ne serait pas très bonne, mais enfin, bon, on n'en aurait pas beaucoup. En France, on n'a plus de plomb, on n'a plus d'étain, il reste un peu de bauxite dans le sud-est, etc. Mais vous voyez, donc, en fait, comment est-ce qu'on fait dans une économie qui se démondialise, et beaucoup moins de pétrole, c'est une démondialisation, hein, parce que les porte-conteneurs, les minéraliers, les vraquiers, tout ça, c'est du pétrole. Comment est-ce qu'on fait pour conserver ce qu'on appelle le progrès technique, c'est-à-dire des objets très sophistiqués? Voilà. Est-ce que l'ADEME s'est penchée dans le scénario sobriété sur la possibilité, ne serait-ce que de continuer à faire des machines à laver, qui aujourd'hui comportent aussi 60 éléments ou 80 éléments différents parce qu'ils ont un tableau numérique, etc. Non. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est encore sur des visions qui sont très très rustiques, très embryonnaires, très macroscopiques. En fait, elles sont utiles pour inspirer des travaux techniques sectoriels, etc., mais elles ne peuvent pas, en l'état, constituer ce que j'appellerais une solution, c'est-à-dire, on sort ce truc-là, on dit, il n'y a qu'à faire ce truc-là, là, le scénario B2 de RTE, enfin, le scénario N3 ou M2 de RTE, et le scénario machin de l'ADEME, et puis ça va... Non, ça, malheureusement, il reste beaucoup de d'angles morts et d'effets de rétroaction qu'on n'a pas pris en compte dans les approches qu'on a faites aujourd'hui. Mais, je le redis, ça peut constituer une source d'inspiration utile. D'accord. Pour les gens, les soutiers qui sont à l'étage en dessous et qui, eux, doivent réfléchir à qu'est-ce que je fais comme voiture dans un monde où il y a moins de mondialisation, où c'est moins facile d'extraire le métal des mines, où la productivité industrielle diminue et où ça ne doit pas émettre de CO2. Voilà. Et comme ça.
Alors, au fond, par rapport à ma question, vous nous mettez en face d'une sobriété qui reste complètement inventée.
Oui.
Hein? Oui, pas complètement, mais en grande partie quand même, notamment sur le plan social, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. À votre avis, il vaut mieux prendre le problème par quel bout? Par le haut ou par le bas, en quelque sorte?
Alors ça, on va peut-être en parler avec ma voisine de droite, mais par le bas, pour moi. Je crois fortement que la démocratie est un système remontant, sinon ça s'appelle une dictature, et donc je pense qu'il faut prendre le problème par le bas.
Merci.
Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il faut croire dans les avancées technologiques pour solutionner nos problèmes au-delà des ressources que ça nécessite?
Alors, si on refait aujourd'hui des machines à laver dans lesquelles vous avez une commande électromécanique et un tambour dans lequel vous avez un alliage très simple et un capot, pas en plastique mais en bois, je dis n'importe quoi, hein, c'est tout à fait une avancée technique. D'accord ? Donc, est-ce que je crois aux avancées techniques ? Oui. Est-ce que je crois à l'A avec un grand L, technique avec un grand T ? En fait, ça n'est pas défini, la technique avec un grand T. Ça n'existe même pas. Non. Est-ce que je crois qu'on va pouvoir compter sur des objets de plus en plus complexes ? Je viens d'expliquer juste avant que non, pour la raison à laquelle je... Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour un pays comme la France qui n'a quasiment plus une mine sur son sol ? Pour une zone comme l'Europe qui n'a quasiment plus une mine sur... Enfin, si, il y a encore des mines en Europe, mais à l'Est et au Nord, mais il n'y en a quand même plus énormément. Et qui est aujourd'hui critiquement dépendante des approvisionnements en matières premières pour tout et n'importe quoi, hein, de ce qui se passe à l'étranger. Ça reste à inventer. Alors que ça demande beaucoup d'ingéniosité de réfléchir à la façon dont on construit ce système en essayant de conserver un minimum d'acquis pour qu'on ne trouve pas la potion trop amère, c'est évident que ça va demander beaucoup, beaucoup d'ingéniosité. Mais ce n'est pas le cahier des charges avec lequel on fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'on met notre jus de cerveau aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup. On arrive au bout de la première séquence consacrée à la sobriété et au mode de consommation. Je donne la parole à...
Pardon, juste avec la file d'escalier, il y a un truc quand même, c'est qu'on dit toujours la sobriété est heureuse. Moi, je suis pas d'accord du tout. Aujourd'hui, ce qui est heureux, c'est la consommation. Quand vous regardez le comportement effectif des gens, ce qui est heureux, c'est la consommation. Je veux dire, les gens se précipitent sur les promotions, etc., les buffets à volonté. Bon. Donc je pense qu'il y a un énorme travail culturel à faire et pas du tout un travail d'ingénieur. Là, je rentre de l'université d'été, enfin en l'occurrence qui s'est tenue à la fin du printemps, des shifters. Qui sont les bénévoles du Shift, qui constituent une association distincte à Nantes. Et le thème de cette année, c'était comment créer du récit autour de cette histoire de transition, de décarbonation, de sobriété, etc. Et aujourd'hui, on en manque cruellement. On continue, vous ouvrez la télé, ce que je fais de temps en temps, parce que c'est intéressant de regarder ce qui y passe. Vous continuez, enfin, il n'y a pas une série policière où il n'y a pas, j'ai remarqué ça, même française, où il n'y a pas un 4x4, une Jaguar ou je ne sais pas quoi. Donc on continue à être dans un imaginaire, à véhiculer un imaginaire. Hollywood est une entreprise marketing extraordinaire pour pousser les gens à consommer. Donc il n'y a pas. C'était partiellement assumé, du reste, à un moment. Hein. Donc, il y a un énorme sujet culturel, j'ai envie de dire, lié à qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être heureux en montant sur un vélo plutôt qu'en montant dans une voiture. Voilà. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. Pardon.
Merci. Alors, ce qui sous-tend tout ça et toutes nos habitudes, c'est aussi les consommations d'énergie qu'il faut donc, avant de les consommer, les produire. Aujourd'hui, on a une tradition en France qui est très nucléaire, mais on est aussi conscient d'un virage nécessaire vers les énergies renouvelables. Je laisse Antoine poser la première question de la deuxième séquence.
Merci. Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Donc si on a vu que la sobriété n'est plus vraiment une option, on constate aussi aujourd'hui que...
Si, c'est une option. Et l'autre option, ça sera de la pauvreté.
Merci. Alors, on constate que le gouvernement aujourd'hui voudrait dépasser l'opposition assez traditionnelle en France entre énergie renouvelable et nucléaire en proposant d'accélérer en même temps le développement des ENR, terrestres comme offshore, et de relancer le nouveau nucléaire. Arguant d'horizons de temps différents pour déployer ces moyens de production électrique décarbonés, à savoir plus rapides pour les ENR terrestres, éolien et solaire, et moins rapides pour l'éolien offshore et le nouveau nucléaire. Donc ma première question, est-ce que faire justement feu de tout bois sur l'électrification des usages, les ENR et le nucléaire est la seule solution possible pour répondre aux enjeux actuels?
Je vais vous faire une réponse de type mot mêlé. Là, vous savez, les mots mêlés, vous barrez tous les mots, etc. Puis à la fin, il vous reste les lettres pour composer le mot que vous devez trouver. Bon. Donc là, on va barrer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme option dans un monde qu'on veut décarboner et dans un monde dans lequel, de toute façon, pour des raisons géologiques, l'approvisionnement pétrolier, gazier et plus tard charbonnier va de toute façon baisser. Incidemment, en Europe, l'approvisionnement pétrolier baisse déjà de manière subie depuis 2008. L'approvisionnement gazier baisse déjà de manière subie depuis entre 2005 et 2010. Voilà. La conséquence, la raison pour le pétrole, c'est le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde. 2008. Et la raison pour le gaz, c'est le pic de production de la mer du Nord, qui faisait plus de la moitié du gaz européen en 2005. Donc on est déjà dans une baisse subie des deux, ça se voit de manière très très simple, et c'est la raison incidemment pour laquelle la production industrielle n'augmente plus en Europe, que la construction n'augmente plus en Europe, que les tonnes chargées dans les camions n'augmentent plus en Europe, et que le revenu disponible des ménages français a commencé à s'éroder depuis 2010. Voilà, tout ça est une affaire d'énergie, de façon, enfin, on peut l'expliquer de façon assez simple. Donc dans cette affaire-là, donc on peut pas utiliser les énergies fossiles, d'abord parce qu'on en a de moins en moins, et ensuite parce que elles émettent du CO2. Dans les énergies bas carbone, il en reste deux catégories. Il y a les énergies dites renouvelables et les énergies dites nucléaires. Je dis les parce qu'il y a plusieurs manières d'exploiter l'énergie nucléaire. Donc, ouais. Il faut quand même commencer par rappeler que l'essentiel de l'approvisionnement énergétique direct de la France est fossile. Et si je prends l'empreinte carbone des Français, c'est-à-dire l'énergie qui a été nécessaire hors des frontières pour toutes les fringues que vous portez et moi aussi, toutes les chaussures que vous portez et moi aussi, les pieds en acier des chaises sur lesquelles vous êtes assis, les voitures dans lesquelles vous êtes venus qui sont faites en acier, qui n'a pas été le minerai de fer, vient pas de France, les casseroles que vous avez achetées chez un distributeur que je ne nommerai pas, qui sont made in ailleurs tout autant qu'elles sont, les smartphones, qui n'a pas de smartphone dans la salle ? Ben voilà, un valeureux candidat là-bas. Donc, l'énergie de fabrication, elle n'a pas eu lieu en France, etc. Donc, si je rajoute l'énergie de fabrication, c'est-à-dire l'empreinte carbone de ce qui vient dehors de France, la France est encore plus fossile que si je regarde simplement son énergie directe. Donc, en fait, la première chose qu'il faut commencer par rappeler, c'est que l'électricité en France, c'est un petit quart de l'énergie qu'on consomme directement en France, de l'énergie finale, et si je rajoute l'énergie qu'on ne consomme pas en France et qui est nécessaire à nos biens de consommation, c'est en dessous de 20%. Et ça fait, depuis que je m'intéresse au sujet d'énergie, que, pardonnez-moi l'expression, on se contrefout, alors maintenant c'est un peu moins vrai, on commence à s'occuper un peu du gaz, mais qu'on se contrefout totalement du sujet pétrole, etc., et qu'on se chicane sur l'électricité. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. La plus évidente pour moi, c'est que les médias, en particulier audiovisuels, ne pouvant faire des reportages que sur des trucs qui se voient. Les seuls trucs qui se voient en France, c'est les centrales électriques, parce qu'on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de mine de charbon et on n'a pas de puits de gaz. Et donc, on s'occupe de parler d'électricité. Voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le débat s'est fortement focalisé là-dessus, parce que c'est facile de faire un reportage sur un truc qui existe, plus difficile sur un truc qui n'existe pas. Si on veut se débarrasser des combustibles fossiles, on a deux options. On a une première option qui est la sobriété, ou, si on traîne trop, la pauvreté. Donc, la sobriété, c'est, je le redis, j'arrête la voiture et je prends vélo, marche à pied, train, la voiture du voisin, whatever. La version pauvreté, c'est je deviens gilet jaune, la même chose. Et puis, on a l'électrification à base d'électricité bas carbone. Aujourd'hui, quand on regarde les temps de développement, à la fois du nucléaire que j'aime beaucoup et des renouvelables que j'aime parfois, de toute façon, les temps sont beaucoup trop longs pour qu'on ne puisse compter que sur ça, à consommation d'énergie identique. Donc en fait, le premier boulot, enfin je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer d'électrifier à consommation énergétique identique. On n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'en fait, à ce moment, on prend l'option que le problème finisse par se régler progressivement par de la pauvreté. Voilà, c'est ça qui se passe. Pour électrifier, qu'est-ce qu'on utilise ? En fait, je vais refaire un peu la même réponse que celle que j'ai faite pour mon voisin de gauche. Ça dépend. Si vous voulez décarboner la production d'acier, il faut l'équivalent de la production électrique d'un réacteur nucléaire par au fourneau qu'on passe à la réduction directe à l'hydrogène. Je pense que c'est plus simple de construire rapidement des réacteurs nucléaires à côté des hauts fourneaux que d'essayer de connecter ça à des sources intermittentes, sans compter que ce genre de procédé, c'est des procédés en continu, industriels, etc., compliqués à débrancher. Si vous avez besoin de clim, c'est vachement bien de mettre un panneau solaire sur la maison, puisqu'en général, vous avez besoin de clim quand il fait chaud quand il y a du soleil. D'accord ? Donc, ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui, si on n'oppose pas tout ça, c'est d'essayer de raisonner sur quel est le truc le plus pertinent en fonction de l'application qu'on veut en faire derrière. Et par ailleurs, si on compte nos abattis, combien est-ce qu'on peut raisonnablement en faire ? Voilà. Et dans le raisonnablement, là je vais peut-être vous faire sauter en l'air, mais il y a un truc qu'aujourd'hui on ne sait pas faire en matière ni de renouvelable ni de nucléaire, c'est d'accepter l'idée qu'on se dirige vers un monde qui va de toute façon être très risqué, et que la seule chose qu'on puisse faire, c'est un arbitrage des risques. Mais l'idée que j'ai longtemps combattue, maintenant c'est un peu moins vrai, qu'un monde sans nucléaire est un monde sans risque, est un monde avec nucléaire, c'est pas vrai du tout. Un monde sans nucléaire, il y a plein d'autres risques que le risque nucléaire. On augmente plein d'autres risques en disant qu'on va faire sans nucléaire. On en augmente plein d'autres. Et à l'arrivée, mon analyse, c'est que le monde global est beaucoup plus risqué si on n'en fait pas. Voilà. Effectivement, donc on va récupérer les risques du nucléaire, mais on va en diminuer plein d'autres. C'est un peu comme si vous refusez les effets secondaires d'un médicament qui va vous sauver la vie. Bon, si vous voulez. Un médicament, c'est risqué, hein. Je vous rappelle qu'à haute dose, c'est toujours du poison, hein. C'est la même chose, hein. Bon. Sauf que vous allez arbitrer les risques et vous allez dire, est-ce que je prends le risque du médicament ou le risque de ne pas prendre le médicament ? Et très souvent, vous allez prendre le risque du médicament. Bon. Ben là, c'est exactement pareil. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui dans le débat sur l'énergie, et en particulier sur l'énergie nucléaire, c'est faire l'arbitrage des risques. Hein, donc on ne voit que les risques d'une option et on ne voit pas les risques des autres options. Donc est-ce qu'il faut faire feu de tout bois ? Oui, mais en étant discriminé. Et discriminer, ça veut dire que, par exemple, on va rentrer dans les détails, de l'éolien ici, c'est intelligent, de l'éolien là, c'est moins intelligent. De l'éolien, pour avoir de l'électricité quand le vent souffle, c'est bien. Pour en avoir quand le vent souffle pas, aujourd'hui, c'est compliqué. En particulier, un des trucs aujourd'hui, on ne sait pas faire dans un réseau qui serait essentiellement alimenté avec des sources non pilotables, c'est le stockage intersaisonnier. Ou le stockage interannuel. C'est ça les grosses difficultés. Le stockage quotidien, on va y arriver. Ça, c'est pas un problème, il y a des batteries, etc. Le vrai problème, c'est passer les saisons et éventuellement passer les années qui ont des conditions météorologiques assez différenciées. Voilà, c'est ça, ça la différence.
Merci. Ouais, justement, pour poursuivre sur la notion de risque, nous, on vous propose maintenant de zoomer en fait sur les handicaps de chaque source d'énergie électrique décarbonée, donc ENR puis nucléaire. Parce que mettre en avant en fait les atouts, hein, les lobbies le font tous les jours. Donc nous, en tant que citoyens, on considère justement que c'est dans les angles morts, technologiques ou sociétaux, que va se cacher le diable. Donc quels seraient selon vous les handicaps majeurs qui pèsent sur une forte pénétration des ENR électriques ? Est-ce justement la maîtrise des technologies de stockage, comme l'hydrogène ou le méthane de synthèse ? Est-ce que c'est l'approvisionnement en matériaux, la maintenance, la durée de vie de ces installations ? Encore le manque d'espace ou bien l'acceptation sociétale des éoliennes, par exemple.
Alors d'abord, il faut rappeler que dans les ENR électriques, la première dans le monde aujourd'hui, c'est l'hydroélectricité. D'accord ? Donc en fait, votre question, je vais la restreindre aux ENR électriques non pilotables, que sont l'éolien et le solaire, parce que j'imagine que c'est essentiellement là-dessus qu'elle portait. Il n'y a aucun problème pour faire un système 100% ENR quand vous êtes en Norvège. Du reste, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont 4,5 millions. Sur un territoire qui doit faire, sauf erreur de ma part, un peu moins de 200 000 ou de l'ordre de 200 ou 250 000 km², qui est essentiellement montagneux. Il consomme 2,5 fois, si ma mémoire est bonne, l'électricité des Français par personne, 100% ENR, aucun problème. Donc, il y a des géographies qui s'y prêtent très bien. Il n'y a aucun problème. Et l'hydroélectricité étant pilotable, il y a zéro souci. En ce qui concerne l'éolien et le solaire, alors, les inconvénients, on va dire, par rapport aux formes plus historiques de production électrique qu'on a, c'est que c'est des sources qui... Enfin, ça exploite des sources d'énergie qui sont diffuses. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre cube de vent qui se déplace, et il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre carré qui reçoit de l'énergie solaire. D'accord ? Il n'y en a pas énormément. Donc, ça veut dire que pour avoir des quantités significatives d'énergie à partir de ces sources, et aujourd'hui, notre civilisation utilise des quantités très significatives d'énergie, et même si on le divisait par deux ou par trois, ça serait encore des quantités très significatives d'énergie par rapport à ce qu'ont été les temps historiques, hein, par rapport à ce qu'était la condition humaine il y a plus de deux siècles. Et ça demande de déployer un très très grand nombre de collecteurs. Du coup, ça, donc le premier sujet, c'est les matériaux, l'industrie, les emplacements, donc tous les trucs qui sont nécessaires quand vous avez un très très grand nombre de collecteurs à déployer, et ça peut être un sujet en tant que tel. Quand vous regardez la quantité d'éolien offshore qu'il faudrait, la quantité d'éoliennes qu'il faudrait avoir pour avoir 50 ou 100 gigawatts de puissance installée, vous vous rendez compte qu'on en parsème tout le long des côtes absolument partout. C'est pas nécessairement très facile. D'abord, il y a un sujet d'acceptabilité, mais même si l'acceptabilité n'est pas un problème, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où il faut faire des chantiers offshore. Est-ce qu'on a les moyens de les faire en simultané? Pas nécessairement. Ça veut dire qu'il faut créer plein de bateaux pour aller installer, faire des trous, des machins, etc. Avoir plein de cimenteries qui savent faire du béton qui se solidifie sous l'eau. Enfin, il y a des histoires de filières industrielles où il peut y avoir également des facteurs limitants. Et ensuite, ces installations, on les fait pour 20 ans, 30 ans. Alors, bon, c'est comme pour le nucléaire, qu'on a dit 40 ans, il va durer plus longtemps. Une éolienne, on dit 20 ans, en fait, ça va durer plus longtemps. Un certain nombre, c'est évident. Mais à un moment, il va quand même falloir le renouveler. Donc, la question aussi, c'est qu'on construit un système électrique. OK, on a des scénarios jusqu'en 2050, mais en fait, le système électrique qu'on construit, il doit durer jusqu'en 3250, en fait, si on réfléchit bien. Une fois qu'on aura fait un truc stable, il va devoir durer très longtemps. Donc, il y a un vrai sujet de flux de renouvellement continu, sur lequel aujourd'hui, je crois que peu de gens se penchent, qui nécessite en permanence de renouveler des approvisionnements en compétences, en matériaux. Alors, il y a une partie des trucs qu'on va pouvoir recycler, hein, un mât d'éolienne en acier, on peut en faire un autre mât d'éolienne en acier, pas de problème. Il y a des trucs qui sont plus difficiles à recycler. Par exemple, tous les métaux qui sont des petits métaux de spécialité qui sont diffus dans les pièces de l'éolienne, cela se recycle plus difficilement. Il faut savoir que dans les métaux de spécialité, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, montrant que pour une cinquantaine ou une soixantaine d'entre eux, la dilution dans les objets qui en contiennent est supérieure à la dilution dans les mines qui contiennent ces métaux. Ce qui veut dire que le recyclage de ces métaux à partir des objets qui en contiennent va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ça va être très consommateur d'énergie, donc très difficile. Voilà, donc il y a le sujet. Alors, le solaire, c'est pareil. Il faut des emplacements en quantité significative. On voit bien aujourd'hui qu'il commence à y avoir des conflits d'usage avec des gens qui veulent mettre des grands parcs dans les forêts, dans l'agriculture, etc. Les terres agricoles, aujourd'hui, on peut en libérer pour mettre des panneaux, tout simplement parce qu'on a rendu l'agriculture très productive avec des tracteurs, des phytosanitaires et des engrais. Le jour où l'agriculture devient beaucoup moins productive, parce qu'on a beaucoup moins de tout ça, est-ce qu'on a la même vue sur l'occupation? C'est pareil, on renvoie à la question des scénarios. Ça, c'est un truc qui n'est pas bouclé dans les scénarios en général. On continue à voir le gisement de biomasse à l'avenir, en particulier agricole, comme si on avait ad vitam aeternam des engrais de synthèse, des phytosanitaires et des tracteurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon. Voilà, donc c'est ça le sujet, c'est que ça demande beaucoup de collecteurs. Et donc, ça demande beaucoup de matériaux, beaucoup d'emplacements. Et la pérennité à terme de la possibilité de maintenir un parc avec beaucoup de collecteurs et beaucoup d'emplacements, aujourd'hui, c'est un angle mort. C'est-à-dire, c'est une question qu'on n'a pas explorée. La deuxième sujet, c'est l'intermittence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est habitué à avoir l'électricité qui alimente la caméra à l'heure à laquelle on fait mon intervention. D'accord ? Et on ne vous a pas dit, chers lecteurs et chères lectrices, vous viendrez s'il y a du vent. Vous viendrez à 6h, et puis ça démarre à 6h, 6h30, voilà, c'est comme ça. Bon. C'est pareil quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste. En fait, on a fait une société basée sur les horaires. Toute notre société, aujourd'hui, est basée sur les horaires. On va travailler au bureau à 9h, qu'il y ait du vent ou pas de vent, et du soleil ou pas de soleil. On prend le train à 8h, qui est le train de banlieue, il ne vous dit pas, s'il n'y a pas de vent, j'avance pas. Bon. Ce qui veut dire que si on veut garder le même contrat social que celui qu'on a aujourd'hui, la même promesse vis-à-vis de la population, qui est de leur assurer un service indépendamment des conditions extérieures, qui est la société. Voilà, on ne va pas vous dire, très cher ami, vous avez un accident de bagnole, écoutez, pas de chance, il n'y a pas de vent, donc on vous coupe la jambe plutôt que de la réparer. D'accord. Mais ce qui était ce qu'on faisait dans l'ancien temps. On a donc une nécessité impérieuse, si on veut rester dans un système qui ressemble à ça, de pallier cette intermittence. Alors, à l'échelle de la journée, je le redis, on peut faire des batteries. On a suffisamment de matériaux pour faire des batteries. On peut y arriver, c'est pas un problème. Le problème qui reste non résolu, c'est à l'échelle de la saison ou à l'échelle de l'année. Et donc ça, c'est le deuxième truc aujourd'hui. On ne sait pas comment faire. Alors, je vais illustrer avec un exemple historique. Je suis un peu long, mais pardon. L'Allemagne avait en 2002 100 gigawatts, 100 milliards de watts. C'est comme ça qu'on compte la puissance électrique installée. Hein, 100 gigawatts de centrales pilotables dans le pays. 100. En 2022, elle a 130 ou 140 gigawatts d'éolien et de solaire et en puissance pilotable, tout compris, elle a toujours 100 gigawatts. D'accord. Donc ce qu'on ne constate pas en Allemagne, qui est quand même le pays qui a mis le plus le paquet en Europe sur les énergies renouvelables intermittentes électriques, ce qu'on ne constate pas aujourd'hui, c'est la capacité qu'ils auraient à se défaire d'une partie du parc pilotable. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas résolu le problème du stockage, puisqu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. Donc ils s'en servent moins, ça fait baisser les émissions de CO2. C'est une très bonne idée ce qu'ils ont fait pour faire baisser les émissions de CO2. S'ils avaient gardé leur nucléaire et fait baisser le charbon, ça aurait été une encore meilleure idée. Mais c'est une très bonne idée pour faire baisser les émissions de CO2 là où il y a des centres. Donc si les Polonais mettent plein d'éoliennes chez eux, c'est une très bonne idée. Et voir si on en met chez nous pour en fournir du courant aux Polonais, on peut le discuter, c'est éventuellement un truc qui peut se débattre. Mais par contre, aujourd'hui, on ne sait pas se débarrasser totalement de la centrale à charbon ou totalement de la centrale à gaz ou totalement de la centrale hydraulique pour pallier l'intermittence de ces modes-là. Voilà, c'est ça le truc. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on accepte, après on n'a peut-être pas d'alternative, hein, donc c'est un... mais est-ce qu'on accepte de foncer dans cette direction, sachant que ce truc-là ne sera peut-être pas résolu, et à ce moment, comment est-ce qu'on organise la société de telle sorte qu'on retrouve acceptable le fait que les opérations du genou, elles ne seront peut-être pas possibles H24, et qu'il faut choisir le bon moment où on a besoin de se faire opérer. Voilà, c'est ce qui est une forme de gestion par la pénurie, hein. C'est ce que j'appelais la pauvreté tout à l'heure, puisque c'est un truc, voilà. Sauf si on arrive à le désirer, voilà. C'est pour ça que les deux sont très imbriqués pour moi, et que, en tout cas, l'idée naïve qu'on va avoir exactement la même qualité de service aujourd'hui dans un réseau électrique avec que des éoliennes et des panneaux solaires dans un monde qui se démondialise, parce que j'insiste, hein, on va avoir ça avec moins de pétrole. Hein, moins de pétrole, c'est moins de marine marchande. Et la capacité de la marine marchande, quand elle était à la voile, c'est le 50e ou le 100e de sa capacité actuelle. D'accord. Et sans marine marchande, les panneaux solaires viennent plus de Chine et les éoliennes viennent plus de Chine. D'accord. Et les métaux ne sont pas chez nous. Donc c'est ça le sujet. Et tout ça, c'est un sujet d'ordre de grandeur. Voilà. Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait que je pense qu'on ne secoue pas assez fortement la boîte pour voir comment tout ça pourrait s'organiser ou pas.
Donc, merci, c'était un premier focus. Le deuxième en symétrique, justement, toujours sur la notion de handicap, quels seraient ceux qui pèsent sur une perpétuation de la forte pénétration du nucléaire? Alors, est-ce que ce serait un problème générique sur le parc comme celui des soudures? Est-ce que ce serait une surcomplexité, par exemple, du modèle EPR à construire? Est-ce que ce serait la gestion des déchets, un manque d'eau pour le refroidissement des centrales, ou alors là aussi l'acceptation sociétale, encore une fois, du risque d'accident majeur en cas de séisme ou d'autres causes?
Je vous demande une réponse un tout petit peu plus courte que la précédente.
Les handicaps du nucléaire ne sont pas dans les risques du nucléaire, pour faire une réponse très courte. Ils sont dans le fait que, autant dans les ENR, vous avez une barrière de matériaux, dans le nucléaire, vous avez une barrière de compétences. C'est ça la barrière du nucléaire. Et une barrière de capitaux. Ça va vous intéresser puisque vous aimez l'économie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût d'un mégawattheure nucléaire est au premier ordre essentiellement dépendant du coût du capital. Pour un réacteur qui va coûter 10 milliards à construire, entre un coût du capital à 2% et un coût du capital à 10%, la différence, c'est 90 milliards de frais financiers sur la durée de vie du réacteur. 90 milliards. Donc en fait, un nucléaire privé est un nucléaire cher. Donc je fais partie des gens qui disent que le nucléaire n'a rien à faire dans le secteur privé. Un nucléaire moins cher, et voilà. Donc, mais dans les inconvénients, donc il y a une barrière de compétences ou une barrière de mentalité. Parce que dire qu'on va mettre le nucléaire dans le privé, c'est une barrière de mentalité. Ce n'est pas une barrière physique. Ça ne dépend que de la convention qu'on a envie de se donner. Et il y a une barrière de compétences parce que c'est un réacteur, c'est un gros bousin compliqué. Moi, je ne suis pas capable de le faire, vous n'êtes pas capable de le faire. Il faut trouver des gens capables de le faire et des gens capables de le faire. Il faut 10 ans pour faire un bon soudeur industriel, qu'il fasse une raffinerie ou un réacteur nucléaire, du reste. C'est quelque chose qui demande du temps. C'est ça le principal handicap du nucléaire. Dans les handicaps qu'on lui prête souvent, on importe l'uranium, mais j'insiste, on va importer tous les métaux des éoliennes et tous les métaux des panneaux solaires, et on va en importer beaucoup plus en quantité, donc c'est pas parce qu'on n'a pas de nucléaire qu'on n'a pas d'importation. Et aujourd'hui, on importe tous les smartphones, et j'ai pas l'impression que ça vous empêche d'en acheter. La deuxième chose, en ce qui concerne le nucléaire, c'est les accidents. Il faut savoir que le plus grave accident industriel de tous les temps, c'est pas du tout l'accident de Tchernobyl, c'est l'accident de Bhopal. Qui a tué beaucoup plus de monde, qui était un accident d'une usine chimique. Et le plus grave accident d'une installation de production d'électricité en Europe en nombre de morts instantanées, ça n'a pas été Tchernobyl non plus, ça a été la rupture du barrage de Vajon-Longarone en Italie, qui a fait 2500 morts après un glissement de terrain qui a fait déborder le lac de barrage et qui a noyé un village à Laval. La question de la dangerosité, le défaut générique par exemple qu'on a trouvé sur les circuits de secours, c'était des circuits de secours. Alors je vais vous poser une question. Imaginons que vous ayez des mafiosos qui vous courent derrière. Vous êtes dans votre voiture et on vous annonce que votre voiture, il y a un dispositif de secours qui peut-être ne va pas fonctionner. Vous arrêtez la voiture ? Donc là, ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est le fait que l'ASN, telle qu'elle est bigornée aujourd'hui, n'a pas le mandat d'arbitrer entre le risque de continuer l'exploitation et le risque d'arrêter l'exploitation. Ce n'est pas son job. Son job, c'est le risque si je continue l'exploitation, point barre. Le fait que si on arrête l'exploitation, on peut faire mourir plein de gens parce qu'il n'y a pas assez d'électricité, ce n'est pas son problème. Ce n'est absolument pas son problème. Donc, je ne dis pas que c'est des gens malfaisants, c'est juste pas dans son mandat. D'accord, bon. Et comme je disais tout à l'heure, on va devoir arbitrer les risques à l'avenir. Donc là, une question par exemple qu'aujourd'hui personne ne se pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il serait pertinent de prendre un peu plus de risques sur la filière nucléaire, un peu plus, c'est peut-être pas votre envie, mais un peu plus, pour en éviter beaucoup plus à côté, des risques environnementaux et des risques sociaux. Parce que si un défaut de production électrique fait qu'on doit gérer par la pauvreté quelque chose qu'on aurait pu gérer par l'électrification, comment vous quantifiez, comment vous faites cet arbitrage des risques ? Aujourd'hui, il n'est pas fait du tout. Hein. Et ça renvoie du reste à la question derrière, la question. Non, mais c'est la question du débat démocratique.
D'embrayer vers la suite, d'ailleurs.
On ne peut avoir un débat démocratique que sur les choses qu'on connaît. D'accord ? Et ces trucs-là, aujourd'hui, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas explorées.
Je laisse la parole à Camille Dorival pour la dernière partie avant les questions de la salle, à propos de ce qu'on a appelé peut-être un peu pompeusement la démocratie des choix techniques, mais Camille va nous éclairer un peu sur ce qu'on a voulu mettre dans cette partie-là.
Oui, alors effectivement, c'est la question du choix des solutions techniques et de la place qui est laissée aux citoyens dans ces choix. On constate un décalage assez important entre les aspirations qui peuvent être exprimées par les citoyens et puis les actions qui sont mises en œuvre par leurs représentants. La meilleure illustration, c'est évidemment la Convention citoyenne pour le climat, puisque en juin 2020, les citoyens qui avaient été engagés dans cette convention ont fait une série de propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Force est de constater que la plupart d'entre elles n'ont pas été reprises ni par la loi, ni par la réglementation. Il y aurait d'autres exemples à donner comme ça. Mais à votre avis, est-ce que la question des modes de production de l'énergie, c'est la plus pertinente à poser de prime abord aux citoyens, ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se poser la question du type de société que ces moyens de production serviraient? Ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on souhaite collectivement aller vers une société plus frugale ou une société plus technologique?
Alors malheureusement, on arrive dans ma vision du monde, on n'arrive pas à dissocier les deux. C'est bien le problème. Alors je vais commencer par citer, par recycler un papier très intéressant que j'avais lu, je crois que c'est de Sylvestre Huet, qui avait fait remarquer l'énorme différence entre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et le monde il y a deux siècles. Et alors il disait, il y a deux siècles, tout un chacun pouvait, par le simple regard, comprendre les techniques qui étaient en vigueur à l'époque. Vous rentrez dans un moulin, vous comprenez ce que c'est qu'un engrenage, vous comprenez ce que c'est qu'une démultiplication, il y a un petit pignon qui entraîne une grande roue, vous comprenez que ça fait tourner la grande roue plus lentement que le petit pignon et que par contre ça met plus de couple. Enfin, vous comprenez que la force de l'eau fait tourner la roue à eau, que la force du vent fait tourner les moulins, etc. Donc en fait, l'honnête femme et l'honnête homme de l'époque pouvaient par le simple regard comprendre la quasi-totalité des techniques qui étaient utilisées. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Vous et moi, par notre regard, on ne peut absolument rien comprendre. Je regarde ce micro, je ne sais pas comment il fonctionne. Je regarde cette caméra, je ne sais pas comment elle fonctionne. Alors si j'ai une vague idée de la manière dont fonctionne la pendule que j'ai en face de moi et qui me dit que je suis toujours trop long, mais si j'allais... En plus, elle est parleur, oui, ça je sais. Mais elle avance quand même, donc elle me donne quand même le temps que j'ai parlé depuis le début. Donc je sais que là-dedans, il y a des ressorts, des tourbillons, des machins, des bidules. Si ça se trouve, c'est de l'électronique, en fait, je dis n'importe quoi. Et à ce moment, je ne sais de nouveau pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si ici, il y a une seule personne qui est capable de démonter toutes les pièces du moteur de sa voiture, pour les gens qui ont une voiture. Et je ne sais pas si ici, il y a une seule personne qui comprend bien comment fonctionne un train quand on monte dedans. Donc en fait, et votre smartphone, évidemment, vous ne comprenez pas comment il marche, et moi non plus du reste. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une seule technique, plus une seule, dont nous dépendons au quotidien. Est-ce que vous savez comment fonctionne la machine qui a fabriqué votre vêtement ? Non, moi non plus, le reste. Bon. Donc il n'y a pas une seule technique dont on dépend au quotidien, en premier ordre, qui ne soit accessible à tout un chacun. Elles sont toujours accessibles uniquement aux gens qui travaillent dans le secteur et qui les maîtrisent. Et encore.
Les experts alors ?
Appelons-les comme ça. On peut les appeler des experts, des sachants, des. Enfin, oui. Mais est-ce que vous appelleriez expert un ouvrier qui pilote une ligne de production de vaccins ? Vous voyez, il y a une petite connotation dans le mot expert. En attendant, le seul qui sait à peu près comment fonctionne sa ligne de production, c'est lui. Bon. Donc, on est des spécialistes, je préférerais dire. Voilà, probablement que le mot est mieux choisi. On est dans un monde de spécialistes juxtaposés, interconnectés, et aucun d'entre nous n'a aujourd'hui la capacité à disposer d'une vision totale sur l'ensemble des composantes qui sont nécessaires à ce que le monde fonctionne. Il n'y a pas de grand architecte qui sait tout, partout, tout le temps. Ça ne marche pas. Du coup, c'est très difficile d'organiser des débats qu'on appelle comme on veut, citoyens, démocratiques, etc. Parce que l'étape numéro un, qui est tout simplement le partage de la connaissance sur le monde tel qu'il est, c'est extrêmement compliqué, c'est hachement compliqué, comme dirait l'autre, à organiser. C'est très, très difficile. Et en fait, dans les dialogues, j'ai envie de dire, de sourds qu'il y a, donc avant même qu'on ne soit pas d'accord philosophiquement, les pires dialogues de sourds, c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les faits. À ce moment, on n'arrive pas à dépasser cette étape. C'était très clair. Alors, pourquoi est-ce que j'arrive pas à distinguer l'énergie des modes de vie ? Parce que, si vous m'avez un peu lu, vous savez que les modes de vie qu'on a aujourd'hui sont le résultat de l'abondance énergétique. C'est-à-dire l'abondance énergétique qui a mis les machines au travail à notre place, en nous créant un exosquelette surpuissant, a créé le temps qu'on a pour débattre ici, qu'on n'aurait pas eu il y a deux siècles. Il y a deux siècles, on aurait tous été exténués après avoir ramassé des patates, charrié des pierres, etc. Déjà, il n'y aurait pas eu de lumière, il n'y aurait pas eu de lampe avec un incandescence. Donc voilà, on n'aurait peut-être pas eu les moyens de se payer toutes les chandelles et les bougies qu'il fallait pour éclairer cette pièce. Voilà, donc en fait, on ne serait pas. Ouais. Donc vous voyez, or aujourd'hui, vous considérez que d'aller écouter un débat, ça fait partie de votre mode de vie. Dans un monde où il n'y avait pas de machines et pas d'énergie, il n'y avait pas de mondialisation, les gens avaient une chemise ou deux chemises leur vie durant, ils n'avaient pas de congés payés, ils n'avaient pas de retraite, ils n'avaient pas d'études longues, il n'y avait pas d'emploi dans le tertiaire, il n'y avait pas d'égalité entre les droits des hommes et des femmes, parce que vous auriez eu un enfant sur deux qui serait mort en couche, et vous auriez passé votre temps à être enceinte et à allaiter. Enfin, je suis un peu cash, mais c'est pour dire, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que l'énergie nous a amené, c'est juste hallucinant, quoi. Bon. Donc je ne sais pas aujourd'hui dissocier, et c'est bien mon drame et c'est bien le problème, je ne sais pas dissocier aujourd'hui le débat sur l'énergie du débat sur les modes de vie. Je ne sais pas faire ça. Et ça pose d'énormes problèmes, parce qu'on voit bien que tous les débats qu'on essaye d'organiser sur ce sujet, quelles que soient les intentions qu'on prête, bonnes ou mauvaises, aux organisateurs du débat, reviennent à essayer d'attraper l'éléphant par un bout, là, et puis c'est toujours qu'un bout. Quoi. C'est vachement difficile de lui attraper en même temps les pattes, la trompe et les oreilles. Quoi. Ça, on n'y arrive pas. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une réponse qui vous satisfait beaucoup, mais comme disait l'autre, c'est la mienne. C'est encore une fois très difficile. Alors, on peut essayer d'avoir des choses qui améliorent. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, on a amélioré en donnant une étape de formation sur le climat. Mais il n'y avait pas d'étape de formation sur les processus industriels modernes, il n'y avait pas d'étape de formation sur la mondialisation, il n'y avait pas d'étape de formation sur les matières qui sont nécessaires. Il y avait quelques étapes, mais c'est juste impensable de les faire toutes.
Je ne sais pas s'il y a eu vraiment une étape de discussion un peu philosophique sur les choix de mode de vie aussi.
C'est très difficile, encore une fois, de dissocier les deux. C'est très difficile de dissocier les deux. Est-ce que la notion du partage a toujours le même sens si on doit partager sa perceuse ou si on doit partager sa chambre à coucher ? Vous voyez, c'est... Donc, Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut faire un grand débat sur le partage, mais tant qu'on n'a pas dit s'il s'agissait de sa chambre à coucher ou s'il s'agissait de sa perceuse, on n'a rien dit, quoi. Vous comprenez?
Alors, du coup, si on vous suit, comment on résout le problème du choix démocratique et comment on fait participer les citoyens aux choix de société qui sont devant nous?
Ce que j'ai trouvé de moins mal aujourd'hui, comme de moins mauvais, on va dire, comme processus, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre au sein du Chief Project, c'est-à-dire des gens qui ne sont peut-être pas des experts, essayent d'être un peu des spécialistes et essayent de regarder de façon un peu large, jouent au Lego, essayent d'imaginer des constructions et les donnent comme boîte à casser à d'autres, en leur disant « voilà, on a pensé à ça, vous en pensez quoi ?» Donc ça fait économiser du temps aux gens parce qu'on leur propose une construction déjà prête et il faut évidemment faire ça dans l'esprit que les gens vous disent ben non on n'est pas d'accord, là vous avez raté une marche, on est d'accord pour ceci mais pas pour cela, etc. C'est exactement comme ça qu'on a essayé de faire toutes les propositions qu'on a faites. Donc en gros on commence par faire un petit débroussaillage en chambre, puis ensuite on travaille avec des gens d'un secteur, d'un usage, etc. Puis on essaye d'avancer ensemble pour imaginer comment ça pourrait se présenter, puis on finit par boucler avec le reste en disant est-ce que notre truc il flotte toujours dans un monde dans lequel en même temps tout le reste bouge, évolue. Et puis une fois qu'on a quelque chose qui nous paraît correspondre à peu près à ce genre de critères, ce qui sont les nôtres, hein, encore une fois, à ce moment, on essaye de les mettre en débat et donc d'essayer d'en discuter avec des gens à droite, à gauche. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé de moins mauvais comme méthode. Je ne sais pas si c'est merveilleux, si ça permet de répondre et de cocher toutes les cases. C'est un peu comme ça qu'on essaye de fonctionner. Quand vous avez des consultations sur des constructions, qu'il s'agisse de la Commission européenne qui met des trucs en consultation, qui met etc., on s'en approche un peu. La limite de ce genre de processus, c'est que ça s'adresse qu'à des gens qui ont du temps.
Oui,
Et des
compétences, oui.
Ça dépend beaucoup de ce que vous leur demandez. Je vais prendre un exemple. Quand vous travaillez sur l'avenir de l'agriculture, bon, vous dites, ben voilà, on a réfléchi à une agriculture avec un cahier des charges qui est, on essaye d'avoir beaucoup moins d'engrais qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir beaucoup moins de phytosanitaires, du coup on a des rendements végétaux qui baissent, du coup ça veut dire qu'on a moins d'aliments pour le bétail, donc du coup ça veut dire qu'on mange moins de viande, on garde plutôt les vaches au pâturage laitière, on arrête les races à viande et on arrête les trucs qui sont, donc en fait on met des, à la place des limousines, on met des Montbéliard, voilà. Il faudra qu'on fasse du fromage dans ce coin-là. Voilà comment on essaye d'organiser les circuits de distribution. Il faut qu'on remette de la valeur ajoutée plus près des exploitations agricoles. Et puis après, tout le monde mange. Donc à un moment, et puis tout le monde a vu. Là, on est encore loin de la technique. D'une certaine manière, c'est un sujet facile. Tout le monde sait ce que c'est qu'une vache et tout le monde sait ce que c'est qu'un épi de blé. Enfin, bon. Même s'il y a des gamins suisses qui dessinent les vaches violettes, parce que tout ce qu'ils ont vu, c'est les emballages de chocolat Milka. Mais moquez-vous, on est devenu une population d'urbains déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur, hein, ce qui est un des problèmes du reste. Donc on leur dit, voilà comment se présenterait un paysage alternatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en arrive à comprendre. Même sans comprendre dans le détail comment fonctionne une ligne de vaccin, on peut avoir un débat sur si on a moins d'énergie et moins de machines et qu'on produit moins de vaccins, comment est-ce qu'on les répartit ? D'accord ? Est-ce qu'on vaccine plutôt les vieux ou plutôt les jeunes ? Ça va être que des débats difficiles. Hein. Il faut bien comprendre qu'on sort de l'ère des débats faciles. Voilà. Du reste, tout à l'heure dans ma présentation, vous m'avez dit j'ai fait l'unanimité de la gauche à la droite. Je fais aussi l'unanimité contre moi de temps en temps de la gauche à la droite parce que j'essaye de le faire pour que les gens réfléchissent, de poser des questions un peu dures. Hein, si on a beaucoup moins de disponibilité dans l'appareil de soins, à qui on les donne en premier ? D'accord ? Bon, c'est pas une question simple. Hein. Non, c'est pas une question simple. Mais c'est une question qui va se poser. Si on a beaucoup moins de vols en avion, comment est-ce qu'on répartit les trucs ? D'accord ? Par les prix ou par les quantités ?
Bon. 4 fois par an ? Non, 4 fois dans une vie.
4 fois dans une vie. Alors là, l'exercice que j'ai fait, c'est tout le monde a le même droit à voler. Donc les gens dans cette salle, les Somaliens, les Togolais, les Turcs et les Indiens. D'accord ?
Bon, ça fait 6 peut-être pour nous alors.
À ce moment, ça veut dire que vous faites 2 pour les Somaliens. C'est OK, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est votre choix. Mais voilà. Mais mon hypothèse de départ, c'était que tout le monde avait le même. Hein. partout sur Terre. La règle de 3, je l'ai publiée. Donc, c'est pas une proposition pour demain matin. Je sais très bien que c'est totalement irréaliste pour demain matin. C'était un ordre de grandeur pour frapper les esprits. Du reste, ça a assez bien marché, puisque je me suis implicitement fait traiter de nazi par Luc Ferry.
Presque un compliment venant de...
Oui, c'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Mais c'est fait pour frapper les esprits parce que, encore une fois, nous allons au devant de débats difficiles, malheureusement. Et je pense que plus on les... C'est très lié avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'avenir ne sera pas sans risque. Et qu'on va devoir arbitrer entre les risques et arbitrer et prendre des décisions. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour impliquer le collectif dans des choix difficiles ? Il y a peut-être aussi des méthodes qui restent à inventer aujourd'hui qu'on a, voilà, on n'est pas encore tout à fait au bout de ce qui reste à faire. Et je vais finir en disant, pour le moment, les débats, on sait les faire parce qu'on a des outils de communication. Mm-hmm. Si demain, on n'a plus de téléphone, comment on fait les débats ? D'accord ? Donc, vous voyez, c'est pas pour demain matin, mais c'est pour comprendre que même ça est un sujet.
Oui. Juste peut-être pour préciser un peu votre pensée avant qu'on passe la parole à la salle, est-ce que ça veut dire ce que vous dites, que ça invalide toute solution démocratique de type convention citoyenne, consultation citoyenne, référendum, etc.
Alors j'ai trouvé que l'exemple... Alors référendum, je suis plus réservé, parce que vous savez, quand on pose un référendum dans ce pays, en général, on répond à la personne qui a posé la question beaucoup plus qu'on ne répond à la question. Les Suisses ont une maturité qui est plus importante que la nôtre, donc ils savent poser, et puis des référendums, ils en ont tous les mois, donc c'est un peu... voilà. Par contre, la Convention citoyenne, moi j'ai trouvé que c'était un exercice super intéressant, qui avait été gâché parce que la promesse initiale était une promesse irréaliste. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant dans la Convention citoyenne, c'est que vous prenez 150 personnes qui ne se connaissent pas, j'insiste, qui ne se connaissent pas, qui sont raisonnablement représentatifs de la population. Pourquoi je dis raisonnablement ? Parce que dans les premiers 150 qu'on avait tirés au sort étaient tout à fait représentatifs, et là-dedans, il y en a 30 qu'on dit « nous, on ne veut pas y aller ». D'accord ? Donc on en a tiré 30 supplémentaires, qu'on dit « nous, on veut bien y aller », donc il y a un tout petit biais de sélection. Mais enfin, 30 sur 150, ce n'est pas un énorme biais de sélection. Bon. Donc 150 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont représentatives de la population française, vous les mettez dans une position dans laquelle vous les traitez comme des adultes. C'est-à-dire, vous leur dites « vous allez... décider des contraintes que vous allez choisir de vous, puisque vous faites partie de la société française, s'imposer. » C'est quand même ça qu'on leur dit. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Et quand ils disent qu'il faut qu'on roule à 110, c'est y compris eux. D'accord ? Est-ce qu'avant la convention, un sondage fait auprès des mêmes, qui ne se connaissaient pas, on leur aurait demandé « est-ce que vous êtes d'accord pour rouler à 110 ? » Je pense qu'il y en a plein qui vous auraient dit non. Donc ce que montre cet exercice, moi je trouve de très intéressant, c'est la force du collectif, la force de la mise en responsabilité et aussi la force de l'information. Parce qu'avant de les faire réfléchir, on les a informés. Donc je trouve que c'est un exercice qui est super intéressant. Moi je pense que par exemple dans les exécutifs locaux, ça, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant pour prendre plein de décisions, et même nationales. Enfin, je veux dire. Et là où Macron a raté son coup, c'est quand il a dit « je reprendrai sans filtre ». C'était une connerie énorme. Il ne fallait surtout pas dire ça. Il fallait dire « je m'engage à passer autant de temps à regarder ce qui a été produit que les gens ont passé de temps à le produire. D'accord ». Parce qu'après... même animé de la meilleure intention du monde, il peut y avoir des trucs qui sont... je sais pas, il y a un obstacle juridique, par exemple, à leur implémentation. Alors, vous dites, tiens, il faudrait s'occuper de l'agriculture comme ça. Puis il manque de choses, il y a une politique agricole commune qui fait qu'on ne peut pas. Bon, ben, à ce moment, vous dites, votre truc, je prends l'idée, mais demain matin, on ne peut pas. Bon. Donc il fallait juste s'engager à être sérieux sur l'examen des propositions qui avaient été faites. Dire je reprends sans filtre, c'est évident que ça allait partir dans le décor. Mais par contre, j'ai trouvé moi l'exercice extrêmement intéressant. Donc, mais les gens ont dû passer du temps. Ils ont dû venir les week-ends, ce qui veut dire qu'il a fallu mettre en place un système pour garder les enfants pour ceux qui en ont, parce que dans une population représentative, il y a quelques personnes qui ont l'idée farfelue d'avoir des enfants. Pour ceux qui bossaient le week-end, parce qu'il y en avait peut-être quelques-uns, il a fallu qu'ils acceptent, enfin que leur employeur accepte qu'ils se fassent porter pâle. Enfin voilà, donc truc de cette nature. Mais ça montre bien que quand des gens pas informés au départ acceptent de passer du temps sur un sujet et qu'on les met dans une position qui est une position de mise en responsabilité collective, il peut se passer des trucs très intéressants. Voilà, moi je trouve que ça voilà. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est mort d'abord, c'est mort d'avance. Par contre, il faut avoir des cahiers des charges qui soient tenables. Et il faut bien avoir conscience du fait que le débat démocratique, ça demande du temps. Tiens, je vais vous donner un autre exemple, qui est la manière dont s'est tenu le débat sur les déchets nucléaires en Suède. Le débat sur les déchets nucléaires en Suède, ça a été 20 000 débats d'arrière-cuisine. Ça a été 20 000 débats à 20 personnes. C'est comme ça qu'ils ont fait. Bon. Ça a pris un temps absolument considérable. Voilà. On ne peut pas faire ça sur tout. Donc il faut bien choisir les grands sujets sur lesquels on les fait.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de la troisième séquence et du privilège qu'on a eu de pouvoir vous poser en direct les questions. Maintenant, la salle peut se joindre à nous. Je vous rappelle qu'on essaye de faire des questions courtes et puis Jean-Marc s'engage à faire des réponses courtes, évidemment.
Oui, non.
La parole circule.
Je vais prendre un homme, une femme, je vous préviens.
On commence par une femme.
Donc on commence par une femme, après ça sera un homme, etc.
Très bonne initiative, ça change. Alors j'ai deux questions, mais très courtes. Moi, je m'occupe d'un réseau de SCOP. Voilà. Donc la démocratie, effectivement, ça prend du temps. On a des entreprises qui sont hyper volontaristes. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil simple ? Parce que franchement, dans la jungle de tout ce qui est proposé, on a évoqué les scénarios, ADEME, etc. En fait, ça reste quand même très compliqué pour les entreprises elles-mêmes et celles qui les accompagnent. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est par rapport à l'approche citoyenne. J'ai bien entendu ce que vous évoquez par rapport à le fait, l'importance en tout cas de tendre vers un peu une spécialité pour pouvoir participer aux solutions. Mais du coup, ça me paraît un peu contradictoire par rapport à ce que vous évoquiez sur le désir à faire, faire émerger, en tout cas pour la sobriété. Ce sur quoi je suis entièrement d'accord sur en tout cas l'idée de désir. Et on voit bien que dans les démarches citoyennes, s'il y a un truc qui marche bien, c'est effectivement d'avoir le sentiment qu'on prend en compte son avis. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une petite contradiction là.
Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous entendez par contradiction. Ce qui est sûr, c'est que l'acceptation de la contrainte est toujours beaucoup plus forte quand on a l'impression qu'on a construit cette contrainte pour une bonne raison. Donc, en fait, c'est une forme d'autodiscipline. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question sur le désir. C'est-à-dire, vous dites, en fait, le désir, s'il vient, par exemple, d'une mode, il est nécessairement imposé de l'extérieur. C'est ça votre sujet ou c'est autre chose ?
L'un des objectifs, ça serait de travailler plutôt sur le désir de consommer moins.
Oui.
Et du coup, là, c'est vrai que dans les concertations, dans les démarches citoyennes, ce qui fait le désir, en tout cas, c'est de pouvoir porter des idées qui risquent d'être retenues. Vous voyez ? Et quand vous dites que... contribuer en tout cas à des solutions. Il faut quand même être un peu spécialiste, sinon ça sert à rien, quoi. En gros, je trouve qu'il y a une petite contradiction. Comment on pourrait faire en sorte, en tout cas, que on prenne en compte la parole. Enfin, moi, je trouve que les démarches de concertation apportent vraiment ce plus, quoi, dans la mise en œuvre des solutions.
D'une manière générale, dans l'émergence du désir, il y a souvent quelque chose de collectif, parce qu'on est des animaux sociaux. Du reste, une des réticences au changement, souvent, c'est de se couper d'un cercle de relations famille, amis, relations amoureuses, collègues, etc., qu'on a bâti en ne tenant pas compte d'un élément nouveau. Et quand on met l'élément nouveau qui nous oblige à changer de comportement, un des prix qu'on n'a pas envie de payer, c'est le fait de se couper d'un tissu de relations, etc. C'est l'éternel exemple de ce qu'on va servir au repas du dimanche, c'est l'éternel exemple du moyen de transport utilisé pour partir en vacances, etc. Mais je ne suis pas sûr, moi, de voir une contradiction entre le fait qu'on ait des démarches collectives et le fait qu'il y ait une émergence du désir. Enfin, je suis pas sûr de voir pourquoi il y a une contradiction. Je pense pas qu'il y en ait fondamentalement une. C'était peut-être parce que j'ai pris deux angles de vue sur les scopes. En fait, les scopes du point de vue de la réponse que je vais faire ne sont pas différentes de toute autre entreprise. J'imagine qu'il ne s'agit pas de multinationales, donc j'imagine qu'il s'agit de petites boîtes. Et en fait, dans une petite boîte, quelle que soit sa forme juridique, il y a un problème qui est le temps, c'est-à-dire la bande passante de l'équipe dirigeante, parce que même dans une scope, il y a une équipe dirigeante, et qui est en général un vrai sujet pour s'imprégner d'un problème nouveau et revisiter tout ce qui fait une entreprise. Les gens qui y travaillent, les compétences qu'ils ont, là où l'entreprise est située, les clients qu'elle sert, les process de production qu'elle a, les fournisseurs avec lesquels elle travaille, le cadre réglementaire dans lequel elle se situe, etc. Et en fait, comme dans ma vision historique du monde, l'énergie a changé tout ça, c'est-à-dire l'ère des machines a changé tout ça, en fait, il faut regarder tout ça à la fois, et effectivement, on est pris de vertige. Je prends le truc par quel bout. Bon. Alors ça c'est peut-être mon travers de consultant, mais je pense que c'est très très difficile pour des gens comme ça d'y arriver seul, extrêmement difficile. Donc ou bien ils ont le temps et les moyens économiques de s'adjoindre une aide extérieure qui aujourd'hui en plus sont pas très nombreuses, parce que des gens qui sont bigornés avec ce que je viens de vous dire là, qui raisonnent système etc, et pas tant que ça, et ils le font, ou bien ils ont pas cette possibilité. Et ce que je connais de moins mauvais qui s'en approche, c'est de commencer à discuter avec des gens qui ont le même problème qu'eux. Donc, c'est tous les cercles qui réunissent des dirigeants de petites entreprises. Donc, ça demande quand même un peu du temps. Hein. Mais qui font périodiquement des réunions qui essayent de discuter de la façon dont eux ont pris le problème, etc. Et là, dans ce genre de cercle, souvent, c'est plus facile de faire venir un intervenant à un moment qui va un peu secouer tout le monde et qui va permettre aux gens de commencer à réfléchir. Voilà. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est le truc le plus élémentaire en général, c'est de parler du problème avec d'autres personnes, parce que elles auront éventuellement pensé à quelque chose, une lecture, regardé un truc, voilà. Ça... Mais quand on a besoin d'un nouvel angle de vue, c'est compliqué de le trouver en soi quand on n'a pas beaucoup de temps.
Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure de l'arbitrage entre la sûreté nucléaire et le risque de baisse de production des centrales. Et je vous propose un autre arbitrage à discuter sur le risque toujours de baisse de production et le risque environnemental. En parlant des centrales nucléaires au bord de fleuves, avec le réchauffement climatique, les températures de fleuves vont augmenter et le débit va à l'inverse plutôt diminuer, ce qui pose un problème du coup pour les refroidissements. Quand on vous parle de sujet en interview, moi, de ce que j'ai retenu de vos réponses, c'est que vous répondez que ce n'est pas un risque pour la sûreté nucléaire, puisqu'on peut baisser la production. Sauf que du coup, cette baisse de production, comme vous l'avez dit avant, pose un problème. Et du coup, dans un monde où on peut avoir une canicule généralisée sur toute la France et donc tous les centrales qui seront amenées à baisser leur production, est-ce que c'est pas un souci? D'autant qu'on voit que dans les années précédentes, en fait, il y a eu plusieurs cas de centrales qui dépassent les normes via des arrêtés préfectoraux de rejet. Donc, qu'est-ce que vous avez?
Alors, le risque que vous évoquez ne concerne que les centrales qui sont en bord de rivière. Il y a une partie des centrales françaises qui sont en bord de mer, donc celles-là, elles ne sont pas concernées. Et par ailleurs, ça concerne toutes les centrales thermiques qui sont en bord de rivière. Le risque existe aussi c'est exactement le même problème pour les centrales à charbon, etc. C'est effectivement pas un risque de sûreté, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est susceptible de déclencher un accident. C'est un risque de baisse de la production, parce qu'en fait, si vous avez moins de fleuves... Alors aujourd'hui, le facteur limitant, c'est pas la quantité d'eau dans le fleuve, c'est la température de rejet de l'eau qu'on prélève. D'accord ? Donc c'est ça qui force à baisser la production. Pour pas gêner les écosystèmes à l'aval du rejet de l'eau. Vous avez souvent en France aujourd'hui, enfin actuellement en France, la consommation d'électricité l'été est beaucoup plus faible que la consommation d'électricité l'hiver. Vous avez quasiment un facteur 2 entre les deux, et c'est à cause de ça que l'essentiel du temps, les arrêts de tranche se font, quand le Covid vient pas mettre le pastis là-dedans, se font l'été. Donc le fait d'avoir moins d'électricité l'été, aujourd'hui, ce n'est pas un problème crucial. Le jour où tout le monde sera climatisé, on en reparlera, mais aujourd'hui, c'est pas un problème. Mais peut-être que justement, il faut éviter que tout le monde se climatise et réfléchir à d'autres solutions. Mais pour le moment, ce n'est pas un problème, c'est pas un problème majeur. Il y a un certain nombre de dispositifs techniques qui peuvent permettre soit de traiter le problème, soit de le baisser. Par exemple, dans les centrales qui sont en bord de fleuve, toutes n'ont pas des tours de refroidissement qui permettent de prélever beaucoup moins d'eau pour refroidir la centrale, parce qu'en fait, vous allez refroidir la centrale en évaporant de l'eau au lieu de juste la réchauffer et la remettre. et quand vous évaporez de l'eau, vous consommez beaucoup plus de chaleur, en gros. Donc on peut rajouter des aéro-réfrigérants sur certaines centrales. La plus grosse centrale aux États-Unis, ça c'est une anecdote que vous connaissez peut-être, alors je vais le dire aux autres, elle est au vrai sens du terme dans la merde, parce qu'en fait elle se refroidit avec les eaux usées de la ville de Phoenix. D'accord, comme ça qu'elle se refroidit. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de dispositifs techniques qui éventuellement pourraient être mis en œuvre pour que ce truc-là, ce problème-là, soit minimisé. Le truc ultime, s'il n'y a plus d'eau du tout dans le fleuve, mais enfin avant qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans le Rhône, quand même, il va se passer un moment. C'est tout bêtement de l'arrêter. Et à ce moment, une fois que vous êtes en arrêt à froid, vous avez besoin d'un débit d'eau pour garder le réacteur en sûreté, qui est considérablement plus faible. Vous avez besoin de quelques litres à la seconde, donc là, vous les trouvez par un forage dans la nappe s'il faut. Enfin, c'est pas un sujet. Voilà. Donc effectivement, il y a un risque de baisse de production lié à la disponibilité en eau l'été. C'est tout à fait clair.
On prend une autre question, madame.
Aujourd'hui, il est quantifié à quelques pourcents de la production annuelle. Dans un scénario de réchauffement significatif. Voilà. Bon, c'est un scénario. Je n'ai pas été regardé.
Alors, dans les boîtes à casser, vous avez envisagé un scénario avec beaucoup de nucléaire. Il n'y a pas que chez nous. Est-ce que ça signifie, vous avez dit tout à l'heure, ASN n'est pas tout à fait câblé pour arbitrer entre des risques de court terme et de moyen terme, si je reformule. Est-ce que ça veut dire qu'on va disséminer partout sur la planète du nucléaire pour arbitrer entre des risques de court terme et de moyen terme en espérant que personne n'ira faire joujou sur Zaporijja ou ailleurs?
Aujourd'hui, quand vous regardez les pays qui ont du nucléaire, à peu près 80, alors j'avais regardé il y a quelques années, mais ça a toujours été aujourd'hui, 90% du parc nucléaire actuel se trouve dans des pays, 90% des centrales à charbon actuelles, c'était ça mon calcul, se trouvent dans des pays qui ont déjà du nucléaire aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas besoin de sortir des pays qui ont déjà du nucléaire aujourd'hui pour traiter l'essentiel du problème du charbon existant. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Le nucléaire, qu'est-ce que ça traite? Ça traite le charbon existant. Ça permet d'avoir toujours de l'électricité en remplaçant des combustibles fossiles. C'est ça le sujet. Oui, alors je fais partie des tristes cires qui pensent qu'on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que les 1,2 milliard de voitures qu'on a dans le monde, plus les 2200 gigawatts de centrales à charbon qu'on a dans le monde, de toute façon, tout ça ne sera pas décarboné dans les 30 ans qui viennent. Et donc, on va se prendre des baffes. C'est absolument évident. Une partie va se résoudre par des craquements dans le système. Ça, c'est pas très drôle à dire, mais je pense que malheureusement, on a trop attendu pour qu'aujourd'hui, ça se gère partout dans la joie et la bonne humeur. Dans ce contexte-là, un certain nombre de pays sont en train d'essayer d'en faire. La Chine est le pays qui, de loin, en construit le plus aujourd'hui. Ensuite, vous avez les Russes qui ont un gros carnet de commandes, alors une partie chez eux, une bonne partie à l'étranger. Dans les pays occidentaux, c'est beaucoup moins. La grande vague, elle est passée dans les années 70-80, 90 en France. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose de significatif. Le fait de recommencer, en fait, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Le fait de recommencer est un truc qui est raisonnablement long. Donc, de toute façon, je ne pense pas qu'on va voir des centrales nucléaires absolument partout pousser comme des champignons demain matin. C'est pas ça qui est en train de se préparer. Mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que je le redis, aujourd'hui on continue. Vous savez, cette année on va encore battre un record d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la réalité de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on continue à être massivement dépendant des combustibles fossiles, y compris dans la génération électrique.
Je vous propose, comme il est bientôt 20h et que la fin approche, de prendre deux questions et Jean-Marc, vous aurez la possibilité de répondre à ces deux en même temps.
Oui, merci. Et moi, j'ai bien aimé votre définition de la sobriété comme renoncement volontaire à des services. En réfléchissant, et si on fait ça sérieusement et à grande masse, si on agrège l'ensemble de ces services, ça se traduit par une diminution d'une grandeur macroéconomique qui s'appelle le PIB. Donc, vu par les macroéconomistes, ça va s'appeler de la décroissance. Je pense que ça n'en est pas, mais ça va s'appeler de la décroissance. Parallèlement, tous les calculs macroéconomiques, toute la politique économique repose sur des hypothèses de croissance du PIB, y compris le travail qui a été fait par Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, que vous avez défendu, et à juste titre, sur France Inter, repose sur cette hypothèse de maintien de la croissance de cet indicateur, de cet agrégat qui est le PIB. Alors ma question, est-ce que, à partir de vos travaux, vous avez commencé à réfléchir à ce qui pourrait être un indicateur alternatif qui permettrait de faire du calcul économique, parce que derrière tout ça, pour transformer tout ça en politique économique, il faut pouvoir faire du calcul économique qui permette justement de sortir de cette impasse un peu logique entre un PIB qui agrège des tas de choses. On le voit aujourd'hui à propos du débat sur l'avion. En fait, on défend l'avion parce que ça contribue à la croissance du PIB.
Et du coup, je complète avec ma seconde question, très rapidement, merci. Merci pour votre intervention. Ma question concerne la sobriété, son coût et la temporalité de nos actions, notamment avec l'urgence climatique qui approche. La sobriété coûte relativement cher, c'est des solutions nouvelles à mettre en place, c'est des systèmes nouveaux à penser, c'est des modes de pensée à changer. Comment mettre en place cette sobriété relativement rapidement pour essayer de pallier au plus vite aux problèmes auquel on va se confronter et essayer de réduire les dommages collatéraux qui ne seront pas collatéraux.
Alors, sur la première question, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer le PIB. Je pense qu'il est nécessaire de faire deux choses. La première, c'est que ça ne soit pas un objectif de société. D'accord ? Il faut qu'on arrive à se dire le PIB n'est pas un objectif de société. Un objectif de société, c'est... En fait, ça revient à la question de tout à l'heure. C'est le genre de climat qu'on a envie d'avoir, le genre d'environnement qu'on a envie d'avoir, le type de logement qu'on a envie d'avoir, tout ça dans la limite des possibilités physiques, etc. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité à gérer la collectivité que le PIB monte ou descende. C'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on sait gérer quand ça monte, on ne sait pas gérer quand ça descend. Ce n'est pas une affaire de changer l'indicateur. C'est une affaire d'arriver à faire en sorte que sa variation ne soit pas quelque chose qui soit notre premier point d'attention. Alors, je sais que dit comme ça, c'est facile. Parce que si le PIB baisse, ça veut dire que les salaires de tous les gens dans la salle baissent. Et il dit, comment ça ? Bon, enfin, si les charges baissent en même temps, ou bien si dans le même temps, on se dit, c'est pas très grave parce qu'il y avait tel et tel machin que j'achetais, finalement, j'en ai pas tellement besoin, je vais arrêter de l'acheter. Enfin, donc, c'est très difficile... Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des réflexions sur les gestions opérationnelles que ça suppose d'avoir un PIB qui baisse. En fait, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en pareil cas ? Et à force de se dire « c'est une éventualité inenvisageable, vous n'y pensez pas, mon bon monsieur, vous n'y pensez pas, ma bonne dame », en fait, ça va nous arriver alors qu'on est à poil. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mode un peu doux, j'ai envie de dire, gestion de ce truc-là, alors que probablement qu'on pourrait avoir des trucs, au moins au début, pas trop douloureux, qui permettraient de s'en accommoder tout en mettant pas en péril la stabilité sociale. Voilà ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est quand même dans une construction dans laquelle, avec un PIB en décrue, on ne sait pas gérer la stabilité sociale. Bon, et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à inventer. Je ne pense pas j'insiste, quand je dis le PIB n'est pas un objectif de société, j'insiste aussi parce que, vous savez, quand vous faites d'un indicateur l'objectif premier de vos efforts, vous devenez très malheureux si l'indicateur ne va pas dans le bon sens. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire... Voilà. Je ne suis pas sûr que vous organisiez toute votre vie en fonction de la vitesse à laquelle vous courez. Parce que si vous faites ça, entre 0 et 30 ans, vous êtes très heureux, et à partir de 30 ans, vous êtes très malheureux. D'accord ? Bon. Donc, vous vous dépatouillez pour que ça soit autre chose que vous allez regarder. Pas juste ça. Vous en tenez probablement compte à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas juste ça que vous allez regarder. En ce qui concerne la façon dont on gère notre monde, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir un peu cette vision tableau de bord qu'on a, nous, en tant qu'être humain. Hein, parce que vous ne regardez pas juste la vitesse à laquelle vous courez, vous regardez la qualité de vos relations amicales, la qualité de vos relations de cœur. Vous regardez tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, au niveau sociétal, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Hein, c'est de passer d'un truc qui nous obsède à quelque chose qui est un indicateur parmi 50, et s'il descend, on arrive à gérer quand même. Voilà, c'est ça qu'on sait. Et je pense qu'il est urgent de réfléchir à ce genre de truc, parce que j'insiste, comme de toute façon ça va nous arriver, je pense que c'est mieux d'avoir des idées sur quoi faire plutôt que de ne pas en avoir du tout. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on organise la sobriété, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Alors, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'investissement, c'est l'efficacité qui demande beaucoup d'investissement. C'est-à-dire, si vous voulez électrifier tout le parc de voitures en gardant des parcs de voitures, en gardant des voitures d'une tonne 2 ou d'une tonne 5, ça, c'est dans la catégorie efficacité, pas du tout dans la catégorie sobriété. Dans la catégorie sobriété, vous divisez par 2 le parc de voitures, et les gens fonctionnent avec un parc de voitures. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Absolument. Mais globalement, ça va vous demander moins d'argent d'investir dans des usines de vélos et dans des usines de bus pour transporter les gens que dans des usines de voitures. Et ça va vous demander moins d'investissement de faire des pistes cyclables que de faire des autoroutes. Donc globalement, la sobriété, elle n'est pas très consommatrice d'investissement. C'est l'efficacité qui l'est, j'insiste. Et par contre, elle est très consommatrice de consentement. D'accord ? Donc elle est très consommatrice de temps, elle est consommatrice d'explications, elle est consommatrice de pédagogie, elle est consommatrice d'équité, elle est consommatrice de tout un tas de trucs qui sont des problèmes pas simples. Pas trop les investissements. Les investissements, c'est pas trop le problème. Le temps est un problème, absolument. Le temps est un problème parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le débat démocratique. Vous ne pouvez pas avoir un débat démocratique avec des gens qui ne comprennent pas vous pouvez l'avoir, mais vous n'en sortez rien. D'accord ? Si je fais aujourd'hui un débat démocratique dans cette salle en disant, voilà, j'ai toussé ce matin. Est-ce que j'ai une pleurésie ? Est-ce que j'ai un cancer du poumon ? Est-ce que j'ai avalé une mouche ? Est-ce que j'ai... etc. Et on va décider au vote. Vous savez bien que c'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Donc, le débat démocratique, il a sa limite quand on a besoin, parce que c'est la nature du problème qui le demande, d'une couche de compréhension du problème que les gens n'ont pas spontanément, pour être capable de les mettre en responsabilité, auquel cas, à ce moment, on a des résultats intéressants. Et ça, c'est consommateur de temps aussi. C'est très consommateur de temps.
Je m'offre la dernière question. Est-ce que Jean-Marc Jancot, ici, on a le droit d'avoir de l'espoir encore ?
Il faut. C'est Churchill qui disait qu'il est trop tard pour être pessimiste, non ? Bien sûr qu'il faut. En gros, c'est nécessaire d'avoir de l'espoir parce que c'est indispensable quand on a un défi à relever d'être combatif. Voilà. Par contre, c'est nécessaire parce qu'on va jouer qu'une fois de ne pas se tromper sur le calibrage de l'effort et de l'objectif. D'accord ? Si en short et en basket, vous vous fixez comme défi de monter sur une montagne qui est à 3000 ou 3500 mètres d'altitude, vous avez de bonnes chances d'y arriver. Si vous fixez dans la même tenue le défi de monter sur l'Everest, vous allez y laisser votre peau. Bon. Donc ça ne s'appelle plus à ce moment de la combativité, ça s'appelle de l'inconscience. Et c'est toujours la différence entre les deux qui n'est pas nécessairement très simple à établir. Donc bien sûr qu'il faut être combatif. Par contre, il faut avoir du discernement. Donc il faut être combatif pour des paris qui sont gagnables et pas être combatif pour des paris dont on peut dire qu'on a de très grandes chances de les perdre d'avance. Voilà. Et c'est toute la difficulté autour de laquelle on a pour partie tourné ce soir, à la fois d'aller vite tout en prenant le temps de réfléchir, de ne pas changer d'avis tout le temps, tout en se réservant la possibilité de le faire si on se rend compte qu'on fait une connerie. Enfin voilà, tout ça n'est pas simple. Mais oui, évidemment qu'il faut être, il faut avoir de l'espoir et qu'il faut être combatif, sinon on ne fait rien.
Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Je rappelle qu'on a été enregistré ce soir, donc on aura le loisir de se réécouter ou de nous réécouter si vous le voulez. Je remercie encore une fois nos collègues pour la partie audiovisuelle, Antoine, Camille et Jean-Louis qui ont préparé cette table ronde assidûment. Et puis merci encore Jean-Marc Jancovici de votre présence. Bonne soirée. Sur la chaîne YouTube.